Vous écoutez
RMC.
Un nouveau journal, Stéphane Genest, bonjour.
Bonjour à tous. La police des polices saisie après la publication d'un enregistrement choc de policiers durant une manifestation. 10 000 personnes attendues à Sainte-Soline contre le projet de méga-bassine et du football, puisque les Bleus voient la vie en rose. Ils se sont imposés 4-0 sur les Pays-Bas hier soir.
Et justement, à 8h10, l'un des organisateurs de cette manif anti-bassine, Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne, sera mon invité.
Et puis juste après, la story sport et ce doublé de Kylian Mbappé en patron hier soir.
La matinale week-end.
D'abord, le préfet de police de Paris qui saisit l'IGPN après des menaces et des intimidations proférées par plusieurs policiers.
Propos diffusés par nos confrères du Media Loopsider, enregistrement réalisé ce lundi à Paris en marge de manifestations non déclarées. Insultes, menaces, gestes violents, c'est un document édifiant, Martin Cadoré.
Efface ton sourire, voilà ce qu'intime à plusieurs reprises un policier à l'un des interpellés, suivi d'un bruit de claque.
Efface ton sourire.
Tu la fermes ou tu veux la deuxième, poursuit le policier.
Je ne ferme pas, tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une, non, pour te remettre la mâchoire droite.
S'en suivent d'autres insultes, des insinuations à caractère sexuel. T'es une sacrée tête à claque, lance un fonctionnaire, et cette menace.
Ta petite tête, on l'a déjà en photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine année. Je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement fusion, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital.
À la fin de la séquence, les policiers sont appelés pour intervenir sur un autre secteur. L'un d'eux conclut.
Pas de la chance, on va se manger sur d'autres personnes.
Mais la conversation s'éternise. S'ensuit un échange teinté de xénophobie avec un jeune homme noir interpellé. Comment t'es venu, demande un fonctionnaire. Il s'est accroché à l'aile de l'avion, répond un autre. Puis plus tard, dans l'enregistrement.
C'est quelqu'un qui a pleuré ? Mais non. Pourquoi t'as pleuré ?
Sur France 5, hier soir, le préfet de Paris s'est dit extrêmement choqué et a annoncé son intention de saisir l'inspection générale de la police nationale.
Et à l'heure où les violences policières sont pointées du doigt, on apprend qu'un cheminot qui manifestait ce jeudi à Paris a été blessé à l'œil.
Le maintien de l'ordre en question et même à l'étranger.
Le Conseil de l'Europe qui s'alarme d'un usage excessif de la force en France. L'Iran, sans aucune forme d'ironie, condamne la répression et appelle les autorités françaises à écouter la voix des manifestants. Manifestations et heurts donc qui ont conduit l'exécutif et le palais de Buckingham à annuler la visite du roi Charles III en France. Le roi d'Angleterre qui devait arriver demain pour une visite de 3 jours, visite qui est décalée apparemment au début de l'été. La contestation contre la réforme de retraite jusqu'au Stade de France. À 49 minutes et 3 secondes, des sifflets contre le 49-3 durant le match France-Pays-Bas se sont fait entendre. Emmanuel Macron qui assure aux syndicats que sa porte restait ouverte à toute discussion, Cyprien Pézril.
Je suis à la disposition de l'intersyndicale, je suis volontaire. À plusieurs reprises, le président s'est montré ouvert à renouer le dialogue avec les syndicats comme une main tendue après la fin de non-recevoir qu'il leur avait adressé au début du mois. Un changement de ton donc, engagé au même moment que l'annulation de la visite du roi Charles III en France. Alors est-ce une prise de conscience ? Emmanuel Macron sait bien que la solution passe par la discussion avec les syndicats, loin un élu de la majorité. Pour autant, si le chef de l'État se dit disponible, c'est pour parler travail, mais pas retraite. Pas avant, en tout cas, la décision du Conseil constitutionnel d'ici un mois. Sur le fond donc, le président reste inflexible. Il ne comprend toujours pas la colère du pays, tacle une insoumise. Mais ses soutiens l'appellent à tenir, à abandonner la réforme des retraites, le rendrait impuissant jusqu'à la fin du quinquennat, prévient même une voix de la majorité.
Et côté grève et blocage, la raffinerie de Gravenchon en Seine-Maritime est totalement à l'arrêt ce matin. Des réquisitions de personnel y ont été effectuées, tout comme à Donges, en Loire-Atlantique. Plus d'une station sur service sur 10 du pays est concernée par une rupture de stock d'au moins un carburant.
8h04 sur RMC, d'une mobilisation à l'autre. Et la crainte du pire à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
Entre 8 et 10 000 manifestants attendus dans la journée contre la création de méga-bassines, ces réserves d'eau que des agriculteurs veulent construire pour pouvoir cultiver malgré les sécheresses. Vous êtes sur place pour RMC, Léna Marjac, et les autorités craignent un rassemblement à haut risque.
Oui, car environ 1000 individus radicaux sont attendus. L'objectif de tous ces militants est clair, se rendre dans la méga-bassine à Sainte-Soline, lieu interdit de tout rassemblement par la préfecture des Deux-Sèvres. Alors face au risque élevé de violence, 3200 forces de l'ordre sont mobilisées. Barrages policiers, hélicoptères de la gendarmerie, policiers en motocross et à cheval. Le secteur est totalement bouclé. Les manifestants veulent faire stopper les travaux de ces immenses retenues d'eau. Ils ont installé leur campement à Vezé dans une zone autorisée à quelques kilomètres de Sainte-Soline. Tente, cuisine, musique, tout est équipé pour y rester le week-end. Le cortège partira à la mi-journée. Il y aura des militants de tous âges, des écologistes, des politiques, mais aussi certains individus cagoulés et masqués qui, hier déjà, ont fait face aux forces de l'ordre sans violence.
Léna Marjac à Sainte-Soline pour RMC.
Vous allez peut-être faire vos courses aujourd'hui. Eh bien, vous pourrez peut-être partir avec un CDI dans votre chariot.
Oui, c'est possible, hein, puisque Leclerc recrute et organise une grande journée porte ouverte de l'emploi. 7000 postes à pourvoir. Carrefour, Casino, Auchan cherchent aussi de la main-d'œuvre. Le secteur de la grande distribution qui peine à recruter. Mais pourquoi ? Eh bien, Siam Spencer a rencontré des employés du secteur. Reportage.
Le réveil sonne à 4h30 du matin chez Marion.
On commence à 5h30, on fait du 6 jours sur 7.
Et c'est le corps de cet employé de rayon chez Leclerc qui en prend un coup.
Je porte du poids, j'ai mal au dos, je suis cassée.
Au même poste depuis 10 ans, pas d'évolution notable de ses conditions de travail. Alors son avenir, Marion le voit loin des grandes surfaces.
Je me vois pas passer toute ma vie là-dedans. Physiquement, j'en serais pas capable.
D'autres ont déjà arrêté leur travail en grande surface. C'est le cas de Franck. Il a travaillé 5 ans en tant que caissier et l'image qu'il en garde.
La mère de famille qui disait à sa petite fille, regarde si tu travailles mal à l'école, tu vas finir comme cette dame, à la caisse. C'est pas vraiment un métier qui attire parce que justement, il n'y a pas d'évolution sociale.
Et la Jin Yang est secrétaire générale de la CGT Commerce. Pour lui, si les grandes surfaces recrutent autant, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de départs.
Ils ne reviennent plus. Et ceux qui sont prêts à partir, ils se précipitent pour partir. Vous allez voir des salariés qui ont 15 ans d'ancienneté et qui touchent plus SMIC. C'est ça qui est inacceptable.
Une étude de la DARES le confirme. Les métiers de la grande distribution sont considérés comme les moins soutenables. Chez les caissiers, 2 sur 3 ne se voient pas aller jusqu'à la retraite.
Allez, les sport avec ce tour de force hier, Stéphane, de l'équipe de France de foot.
Victoire hier soir 4-0 sur les Pays-Bas. Satisfaction évidemment du sélectionneur Didier Deschamps.
Parfait, je sais pas, mais une très belle soirée, plus avec cette ambiance, le stade plein et puis une entame qui a été très bonne pour nous. On a été très efficace et le fait d'avoir fait cette première mi-temps très appliquée aussi. Elle avait bien commencé, c'est bien couturé, c'est un très bon début pour nous.
Avec évidemment nos auditeurs RMC qui saluent hein, le nouveau capitaine, Captain Kiki. On est fiers de lui. Un beau duo magique hier soir. Du rugby à présent avec au programme aujourd'hui cette 21e journée du Top 14.
Journée synonyme de derby. Castres, Stade Toulousain, Bayonne, Pau ou encore Bordeaux-La Rochelle. L'UBB 5e au classement défi. Le 2e du championnat au Matmut Atlantique. Bordeaux qui joue gros ce soir, Nicolas Paolorsi.
Oui, une rencontre déjà capitale pour le capitaine Mamadou Diaby.
C'est un peu un avant-goût des phases finales. C'est un match hyper important pour la construction de notre dernière ligne droite de la fin de saison.
Bordeaux doit marquer son rival au fer rouge pour s'installer durablement dans le haut de tableau. L'entraîneur Julien Lahirle.
C'est un match à part, c'est un match particulier. On a un vrai one-shot ce week-end pour se maintenir dans le top 6, pour continuer à avoir des ambitions dans ce top 14.
L'UBB va pouvoir compter sur un stade en ébullition. Un avantage certain, mais aussi un vrai test pour voir si Bordeaux tient la pression. Le demi de mêlée, Maxime Lucu.
Ça permettra aussi de nous jauger un petit peu dans notre championnat et surtout de nous lancer sur la fin de saison si le résultat est positif. Quoi.
Un derby décisif pour l'UBB qui reste sur 3 victoires de rang en top 14.
Bordeaux-La Rochelle à vivre en direct sur RMC à 21h05. Et puis info pratique, mais ma foi importante. On change d'heure cette nuit. On avance d'une heure à 2h. Il sera 3h. Préparez vos montres. On passe à l'heure d'été. Il fera jour plus tôt et nuit plus tard.
Là, c'est très clair.
Voilà.
On perd une heure de sommeil, quoi.
Absolument, puisqu'en avril, on avance et en octobre, on recule.
Et on gagne une heure de jour.
Et on gagne une heure de journée, absolument.
La petite astuce de Stéphane Genèse de bon matin. Merci beaucoup. Il est, pour le moment, 8h09.
Demain, tout change.
Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 9h. Et là, c'est l'heure de jouer. Avec un très beau cadeau à vous offrir dans le 10 minutes chrono, Marguerite.
On vous offre un séjour de 2 jours pour 2 personnes dans une thalasso. Imaginez, vous allez prendre le temps de penser à vous grâce à Valdi Resort. 8 soins thalasso, des soins de remise en forme et évidemment des massages. Ça se passera en Bretagne, en Loire-Atlantique ou encore en Vendée, que des belles régions.
C'est vous qui choisirez. 10 minutes chrono, pourquoi ? Parce que vous avez 10 minutes pour vous inscrire à partir de maintenant. 32-16, la touche 4 ou le mot matin par SMS au 7-32-16. Matin par SMS au 7-32-16. Bonne chance à vous.
À suivre dans la matinale week-end.
Doit-on s'attendre à des scènes de très forte violence dans les Deux-Sèvres ce week-end contre les Bassines ? Nouvelle manifestation sous haute sécurité. Nicolas Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'organisateur, l'un des organisateurs de ces manifestations et porte-parole de la Confédération Paysanne. On vous rejoint dans un instant sur place et en direct.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Bienvenue, vous écoutez RMC, la matinale week-end pour vous accompagner jusqu'à 9h. Il est 8h13, l'heure d'accueillir notre invité au cœur de l'actualité.
RMC, la matinale week-end, le témoin RMC.
Et nous partons dans les Deux-Sèvres ce matin, Marguerite, votre invité Nicolas Giraud, agriculteur, porte-parole de la Confédération Paysanne.
Bonjour Nicolas Giraud.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes l'un des organisateurs de ces nouvelles grandes manifestations pour dire non au projet de 16 mégabassines agricoles dans la région. Manifestation interdite, je le rappelle, jusqu'à 10 000 opposants attendus, dont 1 500 activistes violents, 3 200 policiers et gendarmes mobilisés, le tout dans un contexte social déjà très tendu. Hier, il y a même eu de premières actions de Black Bloc armés selon la préfecture. Vous redoutez que ça dérape ?
Ben déjà, avant de demander si on redoute que ça dérape, moi je voulais décrire un petit peu les gens qui sont là et pourquoi ils sont là, et ça éclairera justement ce propos-là et cette question-là.
Là, vous êtes où précisément, à Sainte-Soline ?
Ben là, voilà, moi aujourd'hui on est sur un campement à Vanzay, à quelques kilomètres au sud du chantier de la bassine de Sainte-Soline, en zone autorisée à manifestation. Là, je pense qu'il y a entre 5 et 8 000 personnes qui sont arrivées entre hier et énormément dans la nuit. On est arrivé, nous, paysannes et paysans, avec une cinquantaine de tracteurs. Je pense qu'il doit y avoir pas loin de 1000 paysans de la Confédération paysanne de toute la France. Il y a des jeunes et des moins jeunes de mouvements écolos, de mouvements citoyens, des gens localement très impliqués. Et qui sont impliqués sur quoi ? Qui sont impliqués sur une lutte pour reposer la question du partage et de la préservation de la ressource en eau
au vu de
ces constructions-là. Donc, on sait très bien que la grande majorité des gens qui sont là pour non pas rentrer en conflit, mais sont là pour poser le débat du sujet de l'eau et de son partage. Débat qui est aujourd'hui rendu impossible.
Et on va en reparler évidemment, Nicolas Giraud. Juste, vous ne pouvez pas nier qu'il y a quand même une inquiétude sur cette manifestation. Les autorités sont inquiètes. Déjà hier, on a eu quelques frémissements en voyant qu'il pouvait y avoir des violences. Et puis il y a aussi eu votre dernière mobilisation qui s'était quand même pas très bien passée. C'était en octobre avec 61 blessés chez les forces de l'ordre, une trentaine parmi les manifestants. Comment alors éviter que ça dérape ? Je vous repose la question de cette façon.
Alors, en tout cas, nous, Confédération Paysanne et Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre, on va très clairement, au travers de différents cortèges, appeler à ce que les manifestants ne tombent pas dans la provocation des forces de l'ordre, qui sont hyper nombreuses sur le secteur et qui vont forcément chercher à venir faire monter la tension également. Ça a été déjà le cas hier. Donc ne cédons pas à la provocation, restons dans une manifestation avec des gestes de désobéissance civile non violents, pas sur les personnes, mais sur soit des canalisations, soit des gestes positifs pour symboliser l'agriculture que nous voulons pour ce territoire. Juste dire que en amont, hier, il y a eu certaines tensions, mais par qui elles sont provoquées ? C'est-à-dire que hier, on avait demandé à pouvoir rejoindre le camp avec nos tracteurs pour symboliser la convergence entre le monde agricole, une partie du monde agricole et les citoyens sur cette lutte-là. Chose qui nous était rendue impossible par la préfecture des Deux-Sèvres et de la Vienne.
Pour vous, il y a une provocation des autorités, des forces de l'ordre ?
Mais oui, très clairement, il y a une provocation des autorités à partir du moment où l'ensemble du week-end, l'ensemble de la manifestation est interdite, l'ensemble des déplacements de tracteurs sont interdits. C'est une limitation absolument scandaleuse de nos possibilités de manifester, qui fait que la réponse qui va arriver des gens qui seront sur place, c'est l'énervement, c'est une tension qui augmente et c'est potentiellement des affrontements qu'il va falloir gérer.
Donc vous le craignez quand même.
Qu'est-ce qui les génère, ces affrontements ? Pour nous, c'est très clairement l'État qui refuse la discussion sur le partage de l'eau et qui, à chaque manifestation, ne trouve que comme seule réponse à nous envoyer de plus en plus d'hélicoptères, de plus en plus de CRS pour répondre à la demande légitime des gens d'interroger la question du partage de l'eau.
Alors vous appelez au calme ce matin. On va revenir sur vos revendications. Vous opposez à ces immenses retenues d'eau puisées dans les nappes en hiver pour irriguer les cultures en été. Projet porté par l'État, mais aussi une coopérative de 450 agriculteurs. Est-ce qu'avec eux, justement, le dialogue est encore possible ?
Oui, le dialogue est encore possible, c'est-à-dire que dans les Deux-Sèvres, on a organisé ces derniers temps des débats sur le partage de l'eau et à notre grande surprise, mais on était très contents de ça, plusieurs irrigants de la COP de l'eau, grands et petits, sont venus à ces réunions-là. Alors le débat était au début tendu, mais on a pu discuter tranquillement de choix de modèle agricole, de comment.
Mais alors, si vous pouvez discuter tranquillement, Nicolas Giraud, pourquoi on en arrive à faire des manifestations qui sont interdites et à des niveaux de tension, on le voit là, avec ce dispositif de sécurité énorme, si le dialogue est possible. Pourquoi on est là ce matin?
Parce qu'on arrive seulement à discuter avec quelques irrigants du terrain, avec les décideurs de la COP de l'eau ou de la Chambre d'agriculture, ou encore pire, avec l'État, que ce soit au niveau territorial, donc la préfecture, ou avec le ministère. Il est impossible aujourd'hui de re-questionner ces projets-là, alors que nous, il nous semble vraiment important de se redire à quoi ils devraient servir, à quoi ils vont servir. Et plutôt que de poser la question du stockage pour irriguer, posons-nous la question en amont de ça, de quelle agriculture nous voulons, avec quelle irrigation, avec quel besoin d'irrigation, avec quelle priorité
pour cette irrigation. Qui est essentielle pour ces agriculteurs aussi qui subissent la sécheresse.
Pardon ?
Irrigation qui est essentielle pour ces agriculteurs qui subissent la sécheresse, avec une sécheresse qui a commencé dès cet hiver.
Mais vous savez, il y a seulement 6% de la surface agricole utile qui est irriguée en France, et il y a 100% des agriculteurs qui subissent la sécheresse. Donc comment font tous les autres pour arriver à répondre au manque d'eau qui tombe? On ne peut pas faire une politique de l'eau au travers d'un stockage qui va bénéficier à entre 4 et 5% du monde agricole.
Merci,
c'est pas du tout
Nicolas
une réponse qui est intéressante pour le monde agricole dans sa globalité.
Merci beaucoup Nicolas Giraud d'avoir été avec nous en direct sur RMC. Vous êtes porte-parole de la Confédération Paysanne et vous appelez au calme ce matin, ce week-end, pour ce grand week-end de manifestation anti-bassine dans les Deux-Sèvres.
Le dialogue est encore possible, nous dit Nicolas Giraud ce matin. Il est 8h20.
À suivre dans la matinale week-end.
Un doublé, histoire de montrer qui est le nouveau patron. Kylian Mbappé étincelant hier soir pour son premier match en tant que capitaine de l'équipe de France de foot.
Ça sera la Story Sport, à tout de suite sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Soyez les bienvenus sur RMC, il est 8h21 très précisément. Un amour contrarié à 18 ans, il se retrouve à 60. La belle histoire du jour dans un instant.
Eh bien comme quoi, il faut continuer d'y croire en amour. Mais d'abord,
la Story Sport.
Le fait sport du jour, tous les samedis, tous les dimanches, à partir d'aujourd'hui et ce matin avec vous, Morgan Maurice, succès 4-0 contre les Pays-Bas.
L'équipe de France de retour en forme après la finale cruelle en Coupe du Monde, de retour avec du nouveau.
Oui, Mbappé, capitaine, un costume taillé sur mesure, Morgane.
Petit retour en arrière, Mathieu, septembre 2017, France-Pays-Bas, déjà au Stade de France, et premier but de Kylian Mbappé en bleu. Hier soir, retour des Néerlandais à Saint-Denis, premier capitanat du joueur du PSG, et nouveau but, c'est 37e et 38e avec l'équipe de France, un total qui l'installe dans le top 5 des meilleurs buteurs en sélection, derrière Olivier Giroud, Thierry Henry, Michel Platini et Antoine Griezmann. Brassard sur le biceps, Mbappé a supplanté Griezmann comme capitaine du collectif bleu-blanc-rouge. Griezmann pouvait espérer cet honneur au vu de sa carrière, de son passif en équipe de France. En conférence de presse jeudi, Mbappé racontait sa discussion avec le joueur de l'Atlético de Madrid. « Je ne suis pas son supérieur hiérarchique, on va vivre main dans la main ». Hier soir, à peine 2 minutes de jeu, Mbappé a mis ses actes en accord avec ses paroles. Passe décisive à Griezou pour l'ouverture du score.
Morgane, quel genre de capitaine est, ou plutôt va être, Kylian Mbappé ?
Hugo Lloris, Raphaël Varane ont arrêté. Mbappé, 24 ans, 67 sélections, est un trait d'union entre l'ancienne génération, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, et la nouvelle, incarnée par Eduardo Camavinga, par exemple. De génie, Mbappé passe à patron. Pour définir son nouveau job, il a employé les mots rassembleur, fédérateur. Il est aussi en pointe hors du terrain sur les questions de droit à l'image et de sponsor. Il veut avoir un droit de regard sur les marques avec lesquelles il s'affiche en équipe de France. On connaît aussi ses facilités en communication. A priori, il ne viendra pas chaque veille de match en conférence de presse, contrairement à Hugo Lloris, son prédécesseur. La volonté, affirme-t-il, de mettre d'autres joueurs en lumière. Le désir, peut-être, de choisir ses moments pour faire passer ses messages et éviter quelques questions sur les sujets de société hors football. Devant la presse jeudi, Mbappé a affirmé, 2 points, ouvrez les guillemets, « Je veux emmener les autres dans mon sillage ». Pour sa première mission, le capitaine a amené le navire à bon port.
Merci Morgane Maury, 8h23 sur RMC.
l'histoire du week-end.
On va roucouler avec vous, Stéphane Genès. Je suis très contente pour bien commencer le week-end.
La pépite du jour, Stéphane. Celle qui n'a pas échappé à votre revue de presse. La belle histoire qui est une histoire d'amour.
Ah oui, parce que vous avez tous eu, j'imagine, une histoire d'amour de jeunesse, celle que vous n'oublierez jamais. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Len et de Janet. Ce sont deux Britanniques. Aujourd'hui, septuagénaires, ils sont heureux car ils viennent de se marier, sauf que ça partait mal. On est en 1963, Len et Janet ont 18 ans, tous les deux sont en stage dans un hôpital en Angleterre. C'est le coup de foudre, ils tombent sous la maladie d'amour. Len demande Janet en mariage, mais ça ne marche pas, puisque figurez-vous que les histoires d'amour finissent mal en général. La famille de Janet dit non. Len, dépité, cœur brisé, quitte le Royaume-Uni, direction l'Australie, c'est pas la porte à côté. Les deux font leur vie de chacun de leur côté, ils se marient, ils ont des enfants. Et c'est là que le conte de fées va se réaliser, puisque Len divorce, il rentre en Angleterre, il décide de partir à la recherche de sa tendre amoureuse de jeunesse. Il fouille, il cherche, il épluche le bottin et les listes électorales. Il la trouve, il la contacte, Janet ne donne pas suite, sauf qu'en 2017, elle perd son mari. Et là, elle accepte de revoir Len. Et c'est le nouveau coup de foudre, ils emménagent ensemble. Oh. En 2022, il la redemande en mariage 60 ans après la première demande. Elle accepte. Ils viennent de se marier 60 ans après. Nous sommes retombés amoureux, déclare Len au Daily Mail. Mais il a sûrement donc suivi la technique de Céline Dion.
J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si
Céline Dion qui résume si bien les choses.
Elle a la bonne technique. Hein.
Ne jamais perdre espoir.
Mais non, jamais. J'étais à fond. Donc, quel récit. Merci beaucoup, Stéphane.
Avec du bien. De bon matin. Merci, Stéphane Genès. 8h25.
La matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Allez, ça y est, c'est l'heure de vous couvrir de cadeaux. Le tirage au sort a eu lieu. Il tombe ce matin en Gironde. Bonjour, Myriam.
Bonjour.
En forme,
bonjour,
Myriam.
Ah ben oui, je suis en forme.
Vous avez joué avec nous, vous avez bien fait.
Oui, puisque vous allez gagner, Myriam, vous allez gagner un superbe séjour dans une Thalasso Valdis Resort. Je vous donne un peu le programme, Myriam, ça va vous faire rêver. Allez, 8 soins Thalasso, des soins de remise en forme et des massages. Vous allez kiffer, je pense qu'on peut le dire. Vous êtes contente? Vous savez avec qui vous allez partir?
Ah oui, avec mon compagnon.
Eh ben voilà, beau programme. Profitez bien, Myriam. Merci d'avoir joué avec nous.
Merci beaucoup.
Bon voyage en amoureux.
Merci. Le 10 minutes chrono sur RMC avec les Thalasso Valdis Resort. Prenez le temps de penser à vous et retrouvez votre vitalité dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort, hôtel Thalasso et Spa.
Dans un instant, à 8h30, un nouveau journal avec à la une ce cheminot grièvement blessé jeudi à Paris. Il a perdu son œil gauche.
Restez bien avec nous. Nous sommes le 25 mars 2023, vous écoutez RMC.
Il est 8h30. Bonjour, Maxime Gras, tout de suite votre journal.
Bonjour à tous, un cheminot éborgné, oui, en marge de la protestation contre la réforme des retraites. Jeudi à Paris, un manifestant a perdu un œil, récit à suivre. Des motards en colère défilent à Rouen aujourd'hui, enfin pas de pitié pour les oranges. L'équipe de France de foot n'a pas fait beaucoup de détails face aux Pays-Bas pour son premier match d'après Coupe du Monde.
Et puis à 8h40, le professeur de criminologie Alain Bauer, notre invité du grand entretien de la matinale week-end.
La tension sociale ne faiblit pas en ce premier week-end du printemps.
Des appels à la démission d'Emmanuel Macron entendus dans les tribunes du Stade de France hier soir. Au nouveau rassemblement hier après-midi, la grogne contre la réforme des retraites ne connaît pas de pause. À Lille, Toulouse, mais aussi à Paris, plusieurs milliers de personnes se sont encore une fois rassemblées spontanément. Pas de débordement pour la première fois depuis 8 jours. Dans la capitale, les manifestants réunis sur la place de la République ont été d'ailleurs rapidement dispersés. Mais ce matin, on apprend qu'un cheminot qui manifestait jeudi à Paris a été blessé et d'après vos informations, Ameline Lavchin, il a perdu son œil.
Selon un syndicaliste présent sur place, l'accident survient alors que le cortège est arrêté. Le cheminot est gravement touché à l'œil par une grenade de désencerclement. L'homme qui travaille depuis plus de 25 ans à la SNCF est évacué dans une rue voisine avant d'être pris en charge par les pompiers. Souffrant d'une fracture orbitale, il est opéré en urgence dans la nuit de jeudi à vendredi. Hier, le chirurgien lui annonce qu'il ne verra plus de l'œil gauche. Délégué du personnel au centre de maintenance des TGV de la gare de Lyon, le cheminot est décrit comme quelqu'un de pacifique par ses collègues. Selon nos informations, il envisage de porter plainte et le syndicat annonce déjà qu'il l'accompagnera dans cette démarche. Contactée, la préfecture de police de Paris confirme qu'un homme blessé à l'œil a été pris en charge par les pompiers et indique que les causes des blessures restent à définir.
Le syndicat Sudrail auquel appartient le cheminot qui demande aussi à ce que ces violences dans les manifestations cessent immédiatement.
Et dans ce contexte, un document brûlant va arriver sur le bureau de la police des polices.
Au moment où le Conseil de l'Europe s'alarme de l'usage excessif de la force par les agents de l'État en France, un enregistrement audio choc est dévoilé par le site Loopsider. On y entend une équipe des Bravem, la brigade motorisée de la police, menacer, intimider et frapper sept jeunes gens qu'ils venaient d'arrêter en marge des manifestations sauvages de lundi soir dernier à Paris. Invité de la matinale, Fabien Roux, secrétaire général du Parti communiste français, demande la dissolution pure et simple de cette brigade spécialisée.
Cette brigade n'a pas lieu d'être. C'est une politique de maintien de l'ordre qui est répressive et qui fait du mal. Enfin, jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. Ces braves M sont pointés du doigt dans plein de vidéos, par plein de responsables, par une partie de la police aussi, par les syndicats de policiers qui remettent en cause leur méthode de maintien de l'ordre. Tout cela crée de la tension et des dégâts, des blessés.
Fabien Roussel à 7h40. Cet après-midi, la Fédération française des motards en colère de Seine-Maritime se réunit à Rouen pour manifester contre la ZFE, cette zone à faible émission mobilité. Une zone interdite aux véhicules de critères 4 et 5, vous le savez, depuis le 1er septembre 2022. À Rouen, les deux roues ont réussi à échapper à cette mesure grâce à une dérogation. Dérogation qui prend fin le 1er septembre prochain. Jean-Philippe Ridel, coordinateur local, souhaite la voir devenir définitive.
En fait, on ne tient pas compte des spécificités des deux et trois roues motorisées. Par exemple, ça fluidifie le trafic. Hein, s'il y avait plus de motos qui circulaient, il y aurait moins de bouchons. Ça circule plus vite, donc il y a moins de consommation, il y a moins de pollution. La part des motos dans le trafic routier, c'est 3%. Et le taux de la pollution par rapport à la pollution globale sur Rouen, c'est moins d'1%. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on accepte comme ça, pour des dogmes qui sont mal vus et mal pensés, on n'acceptera jamais de nous empêcher de circuler.
8h34 sur RMC, quand un caillou grand comme un stade de foot se balade tranquillement dans le ciel.
Il s'appelle 2023 DZ2. Derrière ce nom digne de Star Wars se cache un gros astéroïde qui nous regardera de haut ce soir. Ce corps rocheux de près de 70 mètres de diamètre passera entre la Terre et la Lune à 20h49 à la modeste vitesse de 38 km/s. Aucun risque d'impact avec notre bonne vieille Terre, je vous rassure. Et c'est bien heureux car cet astéroïde s'est fait surnommer par l'agence spatiale européenne City Killer. Ça se passe de comment?
Ouais, c'est à peine flippant quand même votre affaire. Allez, le collectif à l'affiche dans l'actualité sportive, Maxime.
Les Bleus du foot pour commencer. Une claque infligée hier aux joueurs des Pays-Bas pour son premier match post-Coupe du Monde. L'équipe de France de foot a déroulé hier soir au Stade de France face aux Oranges. Un succès 4-0 pour ce premier match des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus ont été tout simplement impressionnants, Fabrice Hawkins.
Oui, brassard jaune sur le bras gauche, Mbappé ne pouvait rêver plus belle entrée en matière dans son rôle de nouveau patron des Bleus, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni.
Avant le match, il a demandé à tout le monde d'avoir le même état d'esprit, d'avoir un esprit conquérant. L'équipe des Pays-Bas, Jiminy ou pas Jiminy, c'est la 6e nation mondiale, donc on se devait de faire le job, comme j'ai dit auparavant, et donc on est content.
Comme un symbole, après une semaine où Antoine Griezmann a dû encaisser le fait de ne pas avoir été nommé capitaine, Mbappé lui a offert le premier but. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, la page est déjà tournée.
Ces deux joueurs qui s'entendent bien, qui fonctionnent bien ensemble, qui ont toujours fonctionné, qui ont envie, qui ont le même objectif que l'équipe de France continue d'être performante.
Mbappé a montré la voie aux Bleus dans une soirée sans fausse note qu'il faudra reproduire lundi en Irlande.
Et vous aurez bien sûr reconnu la voix d'Arthur Perrault et non celle de Fabrice Hawkins.
Merci pour le correctif. Dublin, théâtre de la seule défaite française lors du tournoi des Six Nations de rugby. Un tournoi qui cède sa place au seul top 14 désormais.
Fini en effet les doublons avec l'équipe de France à l'occasion de sa 21e journée. Le championnat propose un menu de derby. Bayonne-Pau, Bordeaux-La Rochelle et Castres-Toulouse. Le leader toulousain qui a d'ailleurs bien négocié cette période sans ses internationaux avec 4 succès. Une absence qui se prolongera cet après-midi chez le voisin castré. On a donné congé à 7 cadres car Wilfried Templier, avant le mondial, la gestion des internationaux, elle est centrale au club.
Oui, car le Stade Toulousain est le plus gros pourvoyeur de l'équipe de France. 9 des 23 joueurs qui ont battu le Pays de Galles samedi dernier jouent pour Toulouse. Mais depuis le début de saison, pour leur gestion, on sait faire, semble dire l'entraîneur des avants Jean Bouilloux.
On a joué quand même le jeu de l'équipe de France, puisqu'on a rempli notre part du contrat, je pense, avec du repos donné aux uns et aux autres pendant plusieurs mois.
Qui veut aussi mettre maintenant les intérêts du club en avant.
Bon, maintenant c'est à nous de récolter les fruits de tout ce travail engendré pour aborder deux phases finales, la Coupe d'Europe et le championnat.
Mais leader en top 14 qualifié pour les 8e de finale de Coupe d'Europe, la situation confortable confortable de Toulouse lui permet encore aujourd'hui à Castres de se passer des Dupont, Ntamack, Ramos ou Flamand tous au repos. Les autres joueurs, comme Paul Graou, le remplaçant d'Antoine Dupont, doivent tenir la baraque.
C'est le sprint final et on sait que les matchs en jeu arrivent. On a tous envie de faire des bons matchs et encore de progresser. Donc c'est très important que tout le monde élève son niveau.
Ce qui n'empêchera pas le staff de l'équipe de France en pensant à la Coupe du Monde de suivre un peu fébrilement la fin de saison du Stade Toulousain.
Une journée de rugby qui verra la rencontre entre Bordeaux et La Rochelle s'exiler du côté du Matmut Atlantique. L'enjeu sportif y sera important entre deux équipes relancées par trois victoires de rang. Un enjeu que Julien Lahire, le co-entraîneur de Bordeaux, tente de minimiser. Écoutez-le.
C'est un one-shot. Voilà, on a un vrai one-shot ce week-end pour se maintenir dans le top 6, pour continuer à avoir des ambitions dans ce top 14. Voilà, donc c'est un match important, mais c'est un match pour l'instant, quoi.
Et le stade Matmut Atlantique, l'entre des Girondins qui sera plein jusqu'au cintre, 40 000 personnes attendues.
Et puis la MotoGP reprend ce week-end au Portugal et ouvre une nouvelle ère.
Fini le classique agenda, essai libre le vendredi, qualification le samedi et course le dimanche. Le concept de la course sprint est généralisé aux 21 rendez-vous de la saison. Après la séance de qualification de ce midi à Portimao, les pilotes s'élanceront donc pour une première course de seulement 12 tours qui attribuera des points au classement général du championnat aux 9 premiers. Une donne à prendre en compte, notamment pour les Français Fabio Quartararo et Johan Zarco, engagés cette saison. Un nouveau format à suivre dès 16h dans l'intégral sport de Flora Moussi.
Le rendez-vous est pris, c'était le journal de Maxime Gras. Restez bien avec nous sur RMC dans un instant.
Le grand entretien avec Alain Bauer, professeur en criminologie qui publie chez Fayard « Au commencement était la guerre ». Cette guerre, c'est bien sûr l'Ukraine, mais c'est aussi, selon Alain Bauer, celle qui nous attend, celle que l'Occident n'a pas voulu voir et qui a peut-être, vous verrez aussi un lien ou en tout cas les mêmes racines avec ce qui se passe dans les rues de France contre les retraites. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
On parle de tout cela avec vous dans deux minutes sur RMC.
Et vous n'hésitez pas, hein, vous réagissez au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Il est 8h42, vous êtes bien sur RMC.
L'entretien RMC.
Votre invité Mathieu, Alain Bauer, professeur en criminologie au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement.
Et auteur aux éditions Fayard de ce nouvel ouvrage, Au commencement était la guerre, sous-titré L'enfer qui nous attend, point d'interrogation. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Quel enfer, quelle guerre? On va entrer dans le détail dans un instant, mais d'abord une autre forme d'affrontement, parce que c'est l'actualité en France, un climat quasi insurrectionnel, ce sont les mots du premier adjoint à la mairie de Paris hier sur RMC, une forme de guérilla, ça ce sont les mots d'un responsable syndical sous couvert d'anonymat. On est en train de vivre une insurrection, une guérilla, Alain Bauer?
Insurrection non, guérilla pas encore, mais c'est la rencontre inédite de la France des ronds-points et périphériques des gilets jaunes qui ne manifestaient que le week-end car le reste de la semaine, il travaillait, et de la France des grandes places où on manifeste les jours de semaine et où on a une alliance improbable de jeunes bourgeois, de jeunes désespérés, de travailleurs en colère. Bref, l'alliance inédite des désespérés de toute nature ensemble. Et ça, effectivement, c'est un bouillonnement, un cocktail qui peut être extrêmement explosif. Une insurrection, ça serait à temps complet, 24 heures sur 24. Là, c'est une insurrection de fin de manif ou de fin de soirée. C'est quelque chose de particulier, mais la violence devient récurrente. 52 week-ends de gilets jaunes, de nombreux affrontements aujourd'hui encore. On attend, on préempte.
Et pour vous, ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas seulement la contestation face à une réforme quelle qu'elle soit, c'est la suite logique de ce mouvement des gilets jaunes.
Et des bonnets rouges, parce qu'on oublie. C'est-à-dire, nous sommes dans un univers où tout est nouveau et tout s'oublie. La perspective est un truc qui s'éloigne au rythme de l'actualité, mais dans la réalité, il y a un cumul d'exaspération, de colère, de rejet, de refus, de haine, parfois de haine physique, qui s'est accumulée. Et cette accumulation, ce processus-là, c'est ce qui rend les choses de plus en plus complexes. Nous vivons aujourd'hui non plus une succession de crises, mais une crise de tout. La première crise globale, elle est sanitaire, sociale, environnementale, financière, budgétaire, militaire et en même temps.
Mais avec une montée de violence qui, justement, ne cesse de monter et ne redescend pas. On revit presque ce qu'on a vécu pendant les Gilets jaunes, mais avec une intensité plus forte. Se manifestant jeudi éborgnés en marge du cortège parisien. La Brave M, la brigade motorisée, dans le viseur, sous le coup de deux enquêtes. L'une après avoir porté un coup de poing à un manifestant, et puis l'autre depuis hier, avec cet extrait, on va l'entendre, cet enregistrement sonore de policiers qui appartiendraient à cette brigade motorisée, qui tiennent ce genre de propos face aux manifestants.
Tu l'as fait, moi, tu l'as fait.
Oh, ils ont sorti tes potes.
Tu l'as fait, moi, t'en veux une. Je ferme pas. Parce que je ferme pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non, pour te remettre la mâche en droite.
Eh, je peux te dire, si tu veux revenir dans la rue, travaille ton cardio, mon grand. T'as traversé la rue, t'étais aussi.
Ouais, moi, je suis chaud.
Hein. Eh, t'inquiète, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine année. Je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital.
Menace, intimidation, une violence dans les mots à laquelle il faut s'habituer, Alain Bauer ?
Il ne faut jamais s'habituer. Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie, et particulièrement ceux qui sont en charge du maintien d'ordre, ce qui n'est pas le cas des Braves M, contrairement à ce que tout le monde raconte. Les Braves M, c'est fait pour lutter contre une partie très particulière, les
casseurs, les
blackouts, etc., pas les manifestants. C'est justement la retenue, la distance, et c'est à l'aide de Maurice Grimaud en disant vous déshonorez vous-même en utilisant les méthodes de vos adversaires, aussi violentes soient-elles. Donc il n'y a pas à s'habituer. Par ailleurs, non, je ne pense pas que nous soyons dans une situation pire qu'au Gilet jaune. Bien au contraire, on n'est même pas à 10% de ce qui s'est produit en nombre de blessés, de violences, de part et d'autre durant les Gilets jaunes. Et toute la difficulté, c'est d'éviter justement le retour à ce niveau d'intensité.
Et tout comment l'éviter ? Comment sortir de ce cercle vicieux de la violence qui s'installe ?
D'abord, on commence à parler. La France est un pays très étrange où l'État a fixé des règles qui étaient qu'il ne parlait qu'en établissant un rapport de force. Il considère toujours que le rapport de force doit être suffisamment violent pour qu'il daigne discuter avec les opposants. Et ensuite,
Elisabeth Borne attendent quelque part que ça dégénère pour commencer à parler.
Non, je pense qu'ils ont pensé, ils ont parié probablement. Je ne fais pas de commentaires politiques, c'est pas mon métier, mais sur l'idée qu'il y aurait soit un pourrissement, soit un affaiblissement de la contestation. Visiblement, c'est l'inverse. Et comme je l'indique, le rassemblement de plusieurs types de manifestants qui ne s'étaient jamais retrouvés ensemble, bonnets rouges, gilets jaunes, casseurs de tous ordres et mouvement social, mouvement syndical, montre à quel point on pouvait passer une manifestation encadrée, sereine et apaisée, massive, qui, selon les manifestants, ne donnait rien. Il suffit d'écouter les leaders syndicaux, particulièrement le plus modéré d'entre eux, qui est celui qui dit s'être pris une baffe en direct par le président de la République. Donc on comprend une sorte d'exaspération même des plus gentils des opérateurs syndicaux et de tous les autres qui étaient déjà exaspérés et rageux avant. C'est ni l'ultra-gauche ni l'ultra-droite, c'est une sorte d'ultra-peuple qui a décidé une bonne fois pour toutes s'il allait se faire entendre selon le mode d'emploi voulu par l'État, le rapport de force. Et il se trouve que le rapport de force, en France, depuis les jacqueries, il y a 1000 ans, il est violent.
Avant d'en venir à votre livre, un dernier mot sur le profil de ces manifestants que vous évoquez, Alain Bauer, parce que Gérald Darmanin a eu un mot, les Black Bourges, des fils à papa des beaux quartiers qui se muent en casseurs d'extrême gauche. C'est ça la réalité aussi aujourd'hui dans les cortèges, en marge des cortèges ?
C'est sans doute un petit morceau de la réalité. Le grand morceau de la réalité, c'est que c'est des Black Tout. Pour la première fois, il y a une fusion, un rassemblement des exaspérés. Ce n'est pas la fusion des luttes, car ils ne sont pas d'accord sur tout, mais c'est la fusion des exaspérations et des colères. Et ça couvre une large partie du spectre habituel, mais tous ensemble et pas les uns après les autres. Ce n'est pas seulement des problèmes de fin de manif où on vient surfer sur la manifestation, ce qui existe avec la nébuleuse, entre guillemets, depuis 1986, c'est pas nouveau. C'est autre chose qui est en train de se passer, un rassemblement de tous ceux qui ont maille à partir avec l'État et la vision qu'ils ont de l'État et le refus qu'ils ont d'un État qui ne les écoute pas, de leur point de vue.
Au commencement était la guerre. C'est donc votre dernier ouvrage chez Fayard. Et c'est surtout ce message, en finir avec le mirage de la paix, cette naïveté des Occidentaux, des Européens, de penser que la paix prévaut et que c'est une paix entre deux parenthèses de guerre. Vous dites au contraire, la parenthèse, c'est la paix.
Absolument. C'est-à-dire l'histoire du monde, c'est que nous avons eu 30 ans de paix, soi-disant, car il y a eu de très nombreux conflits pendant les 30 ans de paix, que nous avons ignorés, que nous n'avons pas voulu voir, que nous avons dédaignés. Bah, la Tchétchénie, le Kosovo, la Serbie, pour ne parler que ceux qui nous étaient proches. Mais je rappelle aussi qu'il y a eu des affrontements en Irlande, en Catalogne, au Pays Basque, comme s'ils n'existaient pas, que la question de Gibraltar n'est toujours pas réglée, qu'il y a toute une série de micro-conflits un peu partout.
Micro-conflits qui sont en réalité des guerres.
Qui sont en réalité des guerres, parce qu'il y a des morts, il y a des affrontements, il y a des crises. il y a des problèmes qui sont posés, et puis de temps en temps, la guerre se rappelle à nous de plus en plus près. Je rappelle que dès 93-94, la guerre, elle a commencé en Moldavie, aux portes de la Roumanie, qu'elle s'est poursuivie ensuite en Géorgie, où il a fallu l'intervention du président Sarkozy, président de l'Union européenne, pour arrêter Vladimir Poutine sur la route de la conquête de la Géorgie, qui était un sujet purulent depuis la chute du mur de Berlin. Et puis, nous avons eu deux Ukraines, pas une. La guerre, elle n'a pas un an, elle a 9 ans, 2014 et 2022. Donc, nous sommes face à des micro-guerres partout, des grandes guerres parfois, notamment en Syrie, en Irak, finalement, avec des effets migratoires considérables, puisque tout ce petit monde s'est quand même retrouvé réfugié pour des raisons légitimes dans toute l'Union européenne. Et donc, nous ignorons ces événements comme s'ils étaient des petits à côté qui allaient passer vite et que la globalisation heureuse allait répondre à tout.
Finalement, cette guerre en Ukraine a presque démarré au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où on s'est construit une Europe, dites-vous, comme un Erasmus géant, un espace bisounours sans plus aucun ennemi.
Alors, pas au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on avait un ennemi en face de nous, qui était l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. En 89-90, quand le mur est tombé, là, on a cru que nous allions entrer dans un univers où il n'y aurait plus amis ni ennemis, il n'y aurait plus que des consommateurs, des clients et des fournisseurs. Un univers merveilleux, effectivement, où on irait visiter les uns les autres, consommer, éliminer toutes les problématiques de souveraineté, industrielle comme militaire, et penser que la paix éternelle était arrivée. Alors c'est un mirage et un fantasme qui existe depuis Woodrow Wilson.
Première erreur des Occidentaux.
Première guerre mondiale. Oui, parce que quand tu veux la paix, tu te prépares à la guerre, justement pour garantir la paix. Quand la paix s'en va, tu essayes de la rattraper en utilisant de moyens qui sont des moyens de souveraineté. Ce sont des moyens de protection. C'est pas parce que nous ne sommes pas un pays en guerre qu'il faut supprimer, par exemple, la police, considérant que tous les individus seraient par nature gentils, aimables et pas violents. C'est pour lutter contre les plus violents et pour garantir la paix des moins violents ou des plus pacifiques. Mais pacifique ne veut pas dire pacifiste.
Première erreur des Occidentaux. La deuxième, c'est de ne pas avoir voulu comprendre aussi l'identité et la culture russe, alors que, dites-vous, Poutine était le leader russe le plus ouvert à l'Ouest, oui, et à l'Occident, et au compromis avec l'OTAN.
Oui, c'est l'homme qui a réglé tous les problèmes avec l'Ouest jusqu'à la réunion de Bucarest. Il est invité au sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008. Il a fait son grand discours à Munich disant « Bon, écoutez les gars, c'est fini. Vous ne comprenez pas. Vous ne nous comprenez pas, vous ne nous écoutez pas, vous faites comme si de rien n'était. » Et c'est très étonnant parce que pendant 10 ans, l'Ouest a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver l'URSS. Sauver l'URSS. Contrairement à ce que tout le monde raconte, l'idée de pas un centimètre à l'Est a tenu 10 ans.
Et ça, ce sont des faits. Hein. Vous publiez des télégrammes diplomatiques
où on voit François Mitterrand aller voir Mikhail Gorbatchev en disant « Bon, on va dissoudre le pacte de Varsovie, on va dissoudre l'OTAN, on va créer un autre truc. » Et puis ça va être la paix, ce qui était une bonne idée d'ailleurs, je tiens à le dire, je suis pas très mitterrandiste historiquement, mais il faut reconnaître que ça avait du sens. Genscher, ministre fédéral allemand, qui va faire un meeting public à Tutzing et qui dit, bah, écoutez les gars, l'Allemagne va être neutre, on va sortir du conflit des blocs. Donc il y a eu un moment particulier où l'Occident a voulu sauver l'URSS parce qu'elle savait qu'elle avait besoin d'un contrepoids et qu'il fallait éviter le risque, qui était le risque qu'on ne regardait pas très bien, mais qu'on imaginait vaguement, qui était le risque chinois. Et nous avons loupé cet épisode collectivement, tous en bloc, parce que l'URSS n'arrivait pas à tenir sur ses pieds, la CEI, le successeur, était très faible, et à ce moment-là, on a décidé qu'il fallait effectivement avancer l'Alliance Atlantique, mais sans résoudre trois problèmes, la Moldavie, la Géorgie et l'Ukraine, qui sont devenus les points purulents de la relation entre les deux empires.
Conclusion, dites-vous Alain Bauer, il faut sortir de cette naïveté. Il faut que l'Europe se prépare de nouveau à la guerre, s'arme plus et plus de considération pour ses armées et forme des générations futures de résistants. Vous vous adressez d'ailleurs à vos filleuls et à vos étudiants dans ce livre.
Oui, je pense que nous avons partout des générations de résistants qui apparaissent quand le conflit arrive. Nous avons eu des centaines de candidats dans les formations que j'ai sur l'antiterrorisme, beaucoup de jeunes filles d'ailleurs, après les attentats. Il y a un besoin aujourd'hui, non pas de remilitarisation pour faire la guerre, mais pour sauver la paix. Moi, c'est une résistance pour sauver la paix. C'est pas pour nous engager dans la guerre, mais c'est pour montrer que nous pourrions avoir. Quelles sont les leçons de l'Ukraine? La dronisation, la décentralisation et la défense opérationnelle du territoire par les citoyens eux-mêmes. 800 000 Ukrainiens prêts à défendre leur pays. on n'arrive même pas à mobiliser 50 à 60 000 Français dans les réserves dites opérationnelles. Il y a un enjeu majeur de défense de ce pays et de l'Europe, de ses valeurs et ce qu'elle veut, pour sauver la paix.
En Ukraine, les régimes autoritaires se sont découverts moins efficaces qu'ils ne le pensaient, mais les régimes démocratiques moins faibles aussi qu'ils ne pouvaient le craindre. C'est Alain Bauer. Au commencement était la guerre et c'est chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur RMC. Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers.
Merci à vous.
Il est 9h05.